Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, un roman très beau, très intense. Ça se passe sur les bords de Loire, vous allez voir. Ensuite, visite de bibliothèque, nous partons chez François Rollin, le professeur Rollin. Puis à la fin de l'émission, toute l'équipe nous rejoint pour de bonnes idées de lecture encore. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, La Voix est libre. C'est parti, premier chapitre. On ne se baigne pas dans la Loire. Si vous avez déjà entendu ça, c'est que peut-être vous habitez sur les bords de Loire. Tout le monde sait ça là-bas, on ne se baigne pas dans la Loire, c'est dangereux. Il y a des courants très forts, éventuellement des tourbillons. Vous le savez peut-être aussi parce que vous êtes allé récemment dans une librairie et que vous êtes tombé sur le livre de Guillaume Nel, chez De Noël, intitulé « On ne se baigne pas dans la Loire ». Bonjour Guillaume Nel.
Bonjour Nicolas Caro.
Quel titre ! C'est vrai que pourtant la Loire, ça donne vachement envie de s'y baigner.
Ah ben, moi j'ai grandi en bord de Loire, plutôt du côté de Saumur, et c'est vrai que c'est vraiment une invitation à la baignade, au farniente en été. Mais on sait bien quand on est gamin et qu'on grandit là-bas, qu'en fait c'est une très mauvaise idée la Loire, parce que les tourbillons, parce que les courants, parce que la Loire est encore un fleuve sauvage, indompté, et que voilà, même si c'est très tentant, eh ben, y a cette interdiction, cette injonction qui est sur nous de se priver d'aller se baigner, de profiter de sa fraîcheur.
Toutes les flottes un peu jolies donnent envie de s'y baigner, mais c'est vrai que la Loire, il y a un côté Tom Sawyer, Huckleberry Finn, il y a des bancs de sable, il y a des trucs à explorer, on pourrait éventuellement jouer aux pirates et tout.
Bah parce qu'il y a des bras morts, enfin voilà, il y a des espèces de boires comme ça, des espèces de replis, des choses qui donnent envie d'avoir des cabanes parce qu'on a de la végétation qui est un peu en friche, qui est complètement envahie par l'eau en hiver, mais en été, il y a un fil qui se redessine et c'est vrai que c'est propice à la découverte et à aller un petit peu explorer tout ça. Et c'est toujours... Qu'est-ce qu'on fait ?
Maintenant, il faut pas. Et moi, il m'a parlé tout de suite ce titre parce que je viens d'un village pas très loin de Juigné-sur-Loire où s'est passé un fait divers terrible. 19 gamins qui s'y sont noyés. Comment vous tombez sur cette affaire ? Je ne savais pas que vous veniez du Maine-et-Loire, vous aussi. Bienvenue, je suis content
Merci.
De vous voir en vrai.
Les Angevins.
On est du même coin, on ne se connaît pas, mais
non.
À quelques kilomètres, on a été élevés dans le même coin. Ouais. Comment vous êtes tombé sur cette affaire ? C'était quand vous étiez gamin, justement, quand vous habitiez là-bas ? Ou alors plus tard ? Et pourquoi vous en faites un roman ?
Moi, j'étais très étonné, enfin, parce que j'ai découvert ça dans un article de presse du Monde en 2019, qui commémorait les 50 ans de ce drame de Juigné qui s'est passé le 18 juillet. 1969, où 19 gamins entre 11 et 13 ans sont morts noyés à cause d'un banc de sable qui s'est effondré. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est hallucinant, je ne connais pas cette histoire. Alors que j'ai grandi tout près, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce qu'il y a un tabou ? Est-ce que ça a été un drame tellement douloureux qu'en fait, on ne dit rien par rapport à ça, alors qu'il y a eu un retentissement national sur cet épisode ?
Enfin, c'est on est taiseux là-bas, on ressasse pas, on avance.
On est taiseux, voilà, pas comme moi, moi je parle beaucoup. Mais tout de suite, je me suis dit, moi je viens de la littérature jeunesse et ado, et il y a vraiment, il y avait quelque chose qui m'a frappé. Alors déjà, ça se passait dans un territoire que je connaissais bien. Moi, j'aime bien l'ancrage géographique, hein, dans des lumières, l'été, tout ça. Enfin, quelque chose qui m'inspirait. Pour autant, moi, je suis romancier, donc j'ai pas du tout envie de faire du documentaire. Donc j'ai juste pris ce drame comme point de départ pour imaginer une dernière journée d'été en colonie, qui est un motif qui me plaît beaucoup parce que c'est un microcosme, parce que les sentiments sont exacerbés, et à imaginer ce qui se passerait avec ce fleuve qui est là, qui est omniprésent, qui est une invitation à la baignade, et en même temps qui est toujours cette interdiction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est ado, quand on a envie de transgresser les interdits, qu'on est ému en plein émoi parce que justement c'est le dernier jour, que c'est la fin de la colonie, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Et c'est là qu'est née l'envie de ce roman.
Je précise que bon, on sait ce qui va se passer, mais en fait, c'est pas du tout ça le roman, parce que le roman, c'est la tension du film, du fil, pardon. Vous savez, avec les manivelles, là.
Bien sûr.
Et jusqu'à quand est-ce qu'il va casser ? Quand est-ce qu'il va casser ? On se demande pendant tout le roman. C'est très tendu, mais on va y venir. Mais reprenons du début. Dans le roman, au début, on est avec une colo, des grands. Ils ont 17 ans.
Oui.
C'est quasiment le dernier jour. Autant dire que l'excitation est au maximum. Il y a Gustave, grande gueule. Pierre, qui est plus timide, Farid, lui, il est manchot. Totoff ou Totoff, comme on veut, et Jonas et Kevin et Pavel et d'autres. Les premières pages, c'est un peu agaçant parce que c'est des ados surex qui crient, ils rient fort, ils schlinguent la transpiration. Ça commence en fait comme un roman d'adolescence, Guillaume Nel.
Premier roman adulte, mais c'est cette énergie-là que j'aime bien. Enfin, ce truc qui est too much, quoi. Enfin, qui est surexcité, qui est dans une intensité de dingue, mais parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on a une énergie, parce que ça peut aller très vite comme ça. Il y a aussi, enfin, vraiment ces énergies entre les personnages qui se connaissent déjà, et c'est cette exaspération de tout ce qui s'est passé depuis 6 semaines qui va m'intéresser dans cette dernière journée. Voilà, mais avec, bah oui, un truc ado, mais que j'adore. Enfin, on a tous été ados. On sait ce que ça peut être, soit d'être dans le doute, soit de vouloir occuper l'espace, de vouloir prendre la place. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que des garçons. Et donc, il y a un peu...
Et une mono.
Une mono.
Qui n'est pas très, très, tellement plus vieille que...
Non.
Que Gus, par exemple.
Bah, comme souvent, moi j'ai été moniteur BAFA, je connais bien les centres aérés, les colonies. Ah. Et c'est vrai que parfois on est moniteur, on a 18 ans et les gamins en ont 16. Donc c'est qu'est-ce qui se passe? Comment j'assois mon autorité tout en étant exactement peut-être dans les mêmes énergies qu'eux, leurs envies à eux aussi. Donc c'est ce qui m'intéressait dans les rapports entre les personnages aussi.
J'étais sûr parce que c'est très très bien rendu. Alors moi je déteste les colos. J'en ai fait deux quand j'étais gamin, j'ai trouvé ça horrible. Mais bon, chacun son
moi
truc.
Moi aussi.
Mais
vous et avez, pourtant j'y suis retourné.
Vous avez du vice. Vous avez carrément passé le BAFA, vous. Mais c'est très très bien rendu cette dernière journée où il y a différents clubs, même si tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de truc de harcèlement et tout. Mais bon, il y a quelques amitiés et plus de proximité entre certains. Il y en a deux qui jouent tout le temps à la crapette, qui ont joué pendant 6 semaines à la crapette. Voilà. Et qui continue ce jour-là quand on s'arrête sur le bord de la Loire dans une sorte d'espace vert comme ça, une prairie, à côté du château de Brissac. Il y en a d'autres qui jouent au foot, il y en a qui font ceci, qui font cela. On sent que c'est inspiré parce qu'en fait, je me suis dit, soit il connaît bien les colos, soit il s'est inspiré peut-être aussi du fait divers lui-même. Est-ce que vous avez pris autre chose que l'événement lui-même? Vous êtes renseigné, documenté, ou est-ce que vous avez dit non?
Absolument pas. Surtout pas. Enfin, je considérais que cette histoire, elle ne m'appartenait pas. Et que vraiment, moi, ce que je connaissais, c'était la colo et l'énergie adolescente. C'est ça ce que j'aime manier comme matière. Et que vraiment, le fait divers, je n'ai lu que l'article comme point de départ. Et à aucun moment, j'ai voulu me renseigner. Les personnages sont complètement fictifs, sont inventés. Il y a des personnages sur lesquels on peut s'interroger dans certaines de leurs actions. Et vraiment, tout ça est complètement déconnecté de la réalité du fait divers.
Et alors... Parlons-en maintenant, parce que c'est votre premier roman adulte, je l'ai dit, vous faites du roman jeunesse. Et en fait, tout est là pour le roman. Ça aurait pu être un roman jeunesse. Qu'est-ce qui fait que ça se transforme en roman adulte? Et pourquoi vous décidez d'aller dans cette catégorie-là?
C'est une vraie question que je me suis posée. Et je pense qu'en termes d'écriture, il y avait une recherche formelle autour du fleuve, autour de la manière d'écrire le fleuve qui est un personnage à part entière, autour de certains aspects, de certains personnages aussi, qui sont quand même, on peut le dire, problématiques, qui posent question. Donc déjà, on était un peu en train de basculer vers l'adulte. Et il y a quelque chose, parfois, quand on me pose la question de qu'est-ce qui fait la quintessence de l'écriture adolescente, moi, en tant que romancier, c'est vraiment d'avoir envie de dire aux ados, aux enfants à qui je m'adresse, en fait... Ça va pas dans ta vie, là, tout de suite. C'est pas forcément génial. T'as envie de trouver ta place. Tu sais pas comment tu vas te construire, ce que va devenir ton parcours. Mais ça va aller. Ça va aller, vraiment, je t'assure, ça va aller. Je suis passé par là et vraiment, je t'accompagne. Voilà, si mon livre peut servir à ça, tant mieux. Dans ce roman adulte, ça va pas aller. Pas pour tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment la différence qui fait basculer du côté adulte. C'est qu'en fait, j'ai moins le souci du lecteur et de la lectrice. J'ai plus le côté, bah oui, on écrit ce roman. Et en fait, bah, charge au lecteur et à la lectrice d'en faire ce qu'elle a envie d'en faire. Voilà.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue. Vous êtes toujours sur Europe 1. Vous y êtes bien. Et de mieux en mieux avec Guillaume Nel. Pour On ne se baigne pas dans la Loire, son roman, premier roman adulte d'un auteur jeunesse, c'est très intéressant à lire aussi pour ça, c'est chez De Noël, mais c'est d'abord intéressant pour sa manière de raconter une histoire très tendue, même si ce n'est pas un thriller. Hein. C'est l'histoire d'une colo, c'est le dernier jour, des gamins de 17 ans, donc des grands, dernier jour, peut-être même dernier jour de colonie de vacances de toute leur vie, parce qu'à 17 ans, normalement, après, on se débrouille tout seul. Quoi. Donc, beaucoup, beaucoup d'excitation pour cette dernière journée. On s'arrête dans une prairie pour jouer au foot sur le bord de la Loire. À côté, il y a un mur avec des tessons de bouteilles au-dessus. C'est dégueulasse, ces trucs-là. Ouais. C'est parce que c'est une enceinte, en fait, qui protège un petit château qui est là.
Tout à fait.
Et à un moment, on joue au foot et le ballon passe derrière le mur. C'est le motif hyper classique, ça.
C'est classique. Après, ce qui est peut-être moins classique, c'est ce qui va se passer. Ah, oui. Déjà, quel est le personnage dans ceux qui sont vraiment au cœur de l'intrigue, qui va devoir aller là-bas? Il y a un jeu qui s'instaure entre le personnage de Toff, qui est plutôt observateur, et de Gus, qui est le coq, voilà, qui en fait se lance un défi, on va le comprendre à un moment dans le livre, et qui disent, bah, en fait, voilà, allez, c'est à toi, tu y vas. Et Toff, qui va passer de l'autre côté du mur, est-ce que c'est du côté de l'âge adulte? Est-ce que c'est d'un autre côté? Va profiter de cette escapade, de cette parenthèse en dehors de la colonie, pour explorer, aller vers le château, justement, mais parce qu'en fait, il se blesse sur les tessons de bouteille. Voilà, donc il y a toujours une mise en danger qui est là, à la fois excitante, à la fois intense, et en même temps qui est problématique, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de se vider de son sang. Il va devoir trouver des solutions et tomber sur d'autres choses qu'on ne va pas forcément révéler. Mais à l'abri de cette scène qui est en train de se passer en même temps, de cette partie de foot, de cette baignade qui est en dehors de lui finalement et de ce que lui va découvrir.
Alors justement, on ne dit pas ce qu'il trouve dans le château, mais c'est un truc complètement hallucinant, tellement hallucinant qu'on se demande même à un moment si ce n'est pas métaphorique ou un rêve ou une hallucination. Hein, le mot est là justement. Et moi, ça m'a... Alors, le roman là se scinde en deux à ce moment-là. Il y a cette partie-là derrière l'enceinte dans le château où le type est tout seul, le gamin est tout seul, et puis de l'autre côté, on continue à jouer au foot, à se taquiner, etc. Et puis bientôt, on va mettre quelques doigts de pied dans la Loire, tout doucement. Mais ça m'a fait penser au Grand Maulne, la partie château. C'est avec alors Grand Maulne, je rappelle, pour ceux qui ont oublié, c'est donc l'histoire d'un type qui est dans une école, c'est lui qui raconte, et puis un jour, il y a un gamin qui arrive qui s'appelle Augustin Maulne, qu'on surnomme le Grand Maulne, et qui est un type un peu particulier, mais un peu fascinant aussi. Puis un jour, cet Augustin fait une fugue et il se retrouve dans un château où il y a un mariage, et il s'amuse et il tombe amoureux d'une fille, et puis tout à coup, paf, il sort de là, puis il n'arrive plus jamais à retrouver ce château, et son but, c'est de retrouver le château, mais peut-être a-t-il simplement rêvé. Est-ce que c'était un clin d'œil au Grand Maulne? Est-ce que pas du tout?
Alors, si c'était un clin d'œil, c'était inconscient, mais c'est vrai que le Grand Maulne fait partie de mes grands émois de lecteur en tant qu'adolescent. Enfin, voilà, j'ai même envie de réécrire une version du Grand Maulne contemporaine. Enfin, voilà, sauf qu'il y a un truc assez dingue dans ce qui se passe dans le Grand Maulne de « mais ce château a-t-il vraiment existé ?» et comment je projette aussi, en tant que narrateur, quelque chose sur Augustin Maulne, dans ce qu'il raconte. Voilà, et c'est vrai que ce château qui est là, qui existe réellement. Moi, je vois à quoi il ressemble. Il est près du village où ça se passe. C'est un lieu qui me fascine aussi parce qu'il fait moitié abandonné. Il y a une orangerie, on ne sait pas trop. Voilà, donc on me pose la question parfois de est-ce que c'est métaphorique? Pour moi, c'est réel. C'est vraiment en train de se passer ce qui est là. Ce qui est étrange, c'est ce que vit le personnage de Toff quand il découvre ça, ce qu'il y a à l'intérieur du château. Mais en fait, ça fait écho à ce qui est en train de se passer sur les bords de Loire avec ses potes de colo de l'autre côté, quoi.
Ah, vous l'avez écrit vraiment en vous disant c'est
complètement
dans votre tête.
Ah, ça se passe.
Et donc
ça
c'est vous qui avez raison parce que vous le créez, même si le livre appartient aussi au lecteur. Mais c'était vrai, quoi. Bah, tout est vrai, il y a aucun doute.
Pour moi, il y a pas de doute, mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant que les lecteurs, alors soit refusent l'idée que ce soit vrai parce que c'est perturbant aussi le rapport que Toff entretient à ce qu'il va découvrir, c'est assez dérangeant. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'il est à l'aube de sa vie, il a 17 ans et en fait, c'est comme si ça allait être un élément fondamental. Enfin, fondateur de comment il allait fonctionner ensuite plus tard dans la vie. Il le dit d'ailleurs, le rapport à la mort, le rapport à l'eau, enfin le rapport à plein de choses, à cette découverte, à cette journée intense de fin d'été, fin de colo. Donc pour moi c'est réel, mais tant mieux si on peut le lire de manière métaphorique, tout comme on peut lire le fleuve d'une certaine manière ou d'une autre, que je me rends compte que les lecteurs, lectrices qui m'écrivent n'ont pas du tout le même attachement au personnage. Moi, je suis très étonné. Il y a beaucoup de personnages qui adorent le personnage de Toff, qui, pour moi, en tant qu'auteur, est quand même... voilà, enfin, c'est pas forcément le plus aimable. Mais ce que je trouve bien, c'est de dire, à un moment, le roman s'intéresse à leur parcours, à l'amont du fleuve qui est leur vie. Il y a une espèce de métaphore avec le fleuve comme ça. Et qu'en fait, on vient y puiser aussi ce que chacun, chacune a vécu, a connu. Et tant mieux que le lecteur s'approprie le roman et en fasse ce qu'il en a envie.
Moi, je l'aime bien, mais j'ai envie de lui dire « Mais bouge !» Mais bon, c'est ce qu'on a envie de dire à tous les ados de 17 ans, j'imagine.
Oui.
Je voulais présenter mes excuses aux auditeurs. On ne peut pas dire ce qui se passe dans ce château.
Non. Il
faut aller lire le livre, quoi.
Oui.
Ce serait dommage, ce serait dommage. Mais c'est assez, assez dingue. Donc, ce château, il est proche d'un autre château, qui est le château de Brissac,
oui.
Et qui est nommé dans le livre.
Oui.
C'est-à-dire que vous nommez les lieux qui sont proches du vrai fait divers. Est-ce que vous avez hésité à le mettre ailleurs ou est-ce que fallait que ce soit sur les bords de Loire, mais vous auriez pu rester plus...
Alors, parce que fallait Loire, que ce c'est soit, grand. Fallait que ce soit sur les bords de Loire. Pour moi, il y avait une évidence à situer ça en Anjou. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Enfin, c'est étonnamment... un lieu dont je ne me suis pas encore emparé en tant que romancier. Je suis allé dans le Cotentin, dans le Cézallier, en Alsace, dans l'Aubrac. J'adore moi, l'ancrage géographique. J'invente, hein, c'est de la fiction. Je réinvente les lieux, je les réagence un peu, mais j'aime bien quand on est ancré sur un territoire, parce que je considère qu'on peut avoir des héros, des héroïnes partout, que tout le monde a le droit d'être, d'être personnage de roman. Et donc, les bords de Loire, c'était essentiel. Après, ce village de Denis, je le connais bien. Moi, je randonne beaucoup, je me promène par là-bas. Je trouvais que ça correspondait bien à ce dont j'avais envie par rapport au paysage, au Bras-Mort, à la Loire qui est tout près, mais dont on s'inquiète un peu, mais on ne sait pas encore. Et ça me sert, moi, en tant que romancier, de savoir, de visualiser exactement où ça se passe. On a fait un travail avec la maison d'édition aussi pour étayer un petit peu ça, parce que soit on connaît les bords de Loire et on voit très bien à quoi ça ressemble, soit on ne sait pas exactement à quoi correspondent ces bras morts, tout ça. Et donc, on a essayé d'aiguiller le lecteur, de lui... avoir quelques petits repères géographiques, de topologie comme ça, pour qu'il sache exactement où se situer.
Mais justement, c'est une région très intéressante et on salue d'ailleurs tous les Angevins, habitants du Maine-et-Loire et du côté des Mauges
oui,
en particulier.
Bonjour les Mauges.
C'est pas une région très connue parce que c'est pas... On fait pas de la com là-bas, je veux dire,
ben
on n'essaye pas de faire venir à tout prix et tout. Donc si on dit Alsace, si on dit Bretagne, ok, tout le monde connaît ou a une idée. On dit les Mauges, c'est...
Ah ben les Mauges, c'est pas connu du tout.
Alors que c'est magnifique.
Pour les auditeurs auditrices, c'est entre la Vendée et le Maine-et-Loire. C'est une région magnifique, voilà, qui est à cheval sur les deux, qui est très belle, qui a une spécificité assez dingue. Davodo, par exemple, Étienne Davodo et des Mauges a écrit Les Mauvaises Gens. C'est super intéressant sur la sociologie des Mauges. Et c'est vrai que le Maine-et-Loire, souvent, c'est par hasard que je découvre, quand je rencontre des gens, qu'ils viennent du Maine-et-Loire. Il n'y a pas du tout un truc revendicatif. Autant on connaît mieux les châteaux de la Loire du côté de la Touraine, les gens ont une image un peu plus précise. Autant le Maine-et-Loire, notamment voilà, ces bords de Loire face à Angers, Denay, Juigné-sur-Loire, ne sont pas connus alors que c'est magnifique. La lumière est dingue, il y a des vignes, c'est vallonné, il y a vraiment énormément de choses.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre sur Europe 1, toujours avec Guillaume Nel pour On ne se baigne pas dans la Loire chez De Noël. Un roman qui raconte l'histoire d'un dernier jour de colo, des gamins de 17 ans, avec les monos. On s'arrête pour le dernier jour pour jouer au foot sur une prairie sur les bords de la Loire. À côté, il y a un petit château. Et voilà. Et on sait que ça a mal se terminer puisque le roman a été inspiré d'un fait divers terrible qui a eu lieu à Juigné-sur-Loire en 69, il me semble, où 19 gamins comme ça se sont noyés dans la Loire. Vous parliez juste avant de la lumière. Comment on écrit la lumière ? Parce que vous changez de lieu dans différents romans, et dans ce roman-là, donc, vous êtes du côté des Mauges et du Maine-et-Loire, et c'est une lumière particulière, c'est vrai, et surtout sur les bords de Loire en été. Une lumière métallique, comme ça, en été.
Oui, très forte.
Comment vous écrivez la lumière ? Oh, la question.
Bonne question. C'est des retours qu'on me fait sur comment l'écriture, elle est à la fois une écriture du corps et des sensations. Enfin, voilà. Et moi, j'y attache énormément d'importance. On ne se comporte pas de la même manière selon qu'on est aveuglé ou pas, en fonction de ce que je dis aussi, de si on est sur les bords de l'eau ou on a une température un peu inférieure à celle qu'on va avoir sur la prairie qui est 100 mètres plus loin. Et ça, c'est des sensations. Enfin, qui sont juste réels. Enfin, genre, dès lors que j'écris sur des lieux que je connais, c'est ce que j'ai pu ressentir aussi. Cette lumière hallucinant, très forte en été, mais parce que les bancs de sable de la Loire sont très clairs aussi, c'est des alluvions, donc ça renvoie la lumière, il y a un truc presque très blanc, et ça pour moi c'est essentiel, je situe l'action à cet endroit-là, donc il faut retranscrire aussi les sensations que les personnages vont avoir au moment de cette journée d'été.
il y a un personnage dont il faut qu'on parle, qui est le directeur de la colo, mais qui est un directeur jeune, hein, qui s'appelle Benoît. Mm-hmm. Et au tout début du roman, juste avant de partir, quand tous les gamins sont déjà dans le bus, il cherche un prétexte pour revenir dans les dortoirs et il pique ici un t-shirt, là une casquette. Il pique des vêtements de... des gamins.
D'ado, ouais.
Et on se rend assez vite compte que c'est pas très sain, en fait, comme attitude. Quoi.
Pas du tout.
Au-delà du vol, ouais. C'est même glauque.
Ah, c'est assez glauque.
Pourquoi ouais. vous mettez cet angle-là ? Pourquoi vous choisissez ce personnage ?
Il y a un truc que j'aime bien dans un roman comme celui-ci, c'est qu'en fait, c'est les personnages qui me portent. C'est-à-dire que j'ai cette envie de journée de colonie, d'été, j'ai envie de parler du fleuve. Ça commence l'écriture vraiment par l'écriture du fleuve, de dire il y a l'amont, il y a ça qui arrive, qui charrie des alluvions, il y a des choses énormes qui se passent. Et ensuite viennent les personnages, ce directeur de colo et qui s'absente deux secondes. Et en fait, assez presque inconsciemment, il m'amène à avoir envie de dérober des choses parce que c'est son souvenir, parce qu'en fait après ils seront partis, les gamins, il va plus les voir. Et en fait, je me dis, je trouve ça problématique. En tant que personne, moi, mais en fait, je trouve que c'est intéressant, ce personnage qui essaie de garder quelque chose du souvenir par son biais à lui. On pourrait garder une image, on pourrait garder une photo. Lui garde des slips.
Et des t-shirts
qui sentent la transpiration. Et en même temps, il garde un souvenir de la globalité de la colo. Il n'est pas sur un personnage en particulier. Ce qu'il aime, c'est garder quelque chose de l'odeur. On parlait de la lumière à l'instant. Il y a aussi l'odeur, des odeurs de la colo. Voilà. Et il veut conserver ça pour sa mémoire à lui. Et en fait, en tant que romancier, je m'autorise à le mettre en scène.
Et alors, en tant que romancier, est-ce que vous avez beaucoup réfléchi à la fin ? Donc le drame en lui-même finit par y arriver à un moment,
oui.
Mais avec beaucoup de pudeur. Est-ce que vous avez hésité ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions ? Comment on fait ?
C'est vrai.
Il s'agit de tuer des personnages.
Ouais, il s'agit de tuer des personnages, de savoir lesquels. Lesquels on tue aussi assez bizarrement, mais après encore une fois il y a une logique qui s'installe par rapport à ce qu'ont vécu les personnages, parce qu'il y a toute une partie où on revient sur l'historique des personnages, leur parcours, quelque chose qui s'est passé avant, qui va justifier aussi leur comportement au moment de la noyade, de savoir comment ils réagissent, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout ça, ça dure 2 minutes, donc c'est comment on écrit sur 30 pages 2 minutes de drame où personne ne comprend rien, ça s'effondre, le banc de sable, c'est là, il y a la noyade, mais les personnages, et il s'est passé ça juste avant, et pourquoi ça se passe ? Et en fait, il y a une espèce d'urgence, enfin, dans la manière d'écrire, il y avait vraiment l'envie d'avoir cette urgence absolue de ça part dans tous les sens, comme la Loire, comme le fleuve, comme quand il peut vraiment charrier, là plutôt un fleuve d'hiver avec des tourbillons, beaucoup de courant, et ça part dans tous les sens, ça rebondit, et il faut réagir, il faut se dépêcher, qui est-ce qu'on sauve, qui est-ce qu'on ne sauve pas ? Des choix à faire que les personnages font. Et donc, il y avait vraiment cette envie d'urgence et d'aller vite par rapport à ça.
Est-ce que vous êtes allé sur place pendant l'écriture ?
Pas pendant...
À la même date, à peu près
Pas pendant l'écriture. J'avais des souvenirs très, très forts. J'avais pris des photos aussi avant. Et donc, vraiment... Et puis, j'aimais bien aussi, on parlait du Grand Maulne tout à l'heure, vivre sur mon fantasme de ce lieu, de ce que moi, j'en ai retenu, qui peut-être ne correspond pas exactement à la réalité géographique, mais c'est la sensation que j'avais eue par rapport à ce château, par rapport à cette orangerie, par rapport à cette prairie, par rapport aux lumières de Loire ce jour où j'y étais. Et c'est ça ce que j'ai eu envie de conserver aussi.
Il nous reste quelques minutes, mais je voudrais quand même qu'on les prenne pour ouvrir la porte de l'atelier, savoir comment vous écrivez. Ordinateur, stylo ?
Beaucoup de notes d'abord, de noter des choses.
Au stylo, sur
un carnet, j'ai toujours des carnets avec moi, avec mes stylos, voilà, que ce soit dans un café, pendant une randonnée, ailleurs, enfin voilà, dans le jardin, partout, en bord de mer ou de Loire. Et ensuite, à un moment, je me mets vraiment à l'écriture et moi, je suis j'adore réécrire. En fait, j'aimerais passer ma vie à réécrire, à repasser sur ce que j'ai écrit.
Éditeur.
Ah mais ou non, parce que j'ai une très bonne éditrice, Anna Kachaturova, qui est chez De Noël.
C'est eux les vrais héros.
Ah bah, ensemble, on travaille ensemble. Voilà, non, qui a beaucoup accompagné la réécriture. Mais moi, vraiment, je relis sans cesse et j'adore changer une virgule, changer un mot. Parce qu'il y a cette histoire de rythme. J'adore jouer avec la langue, inventer des mots, créer des néologismes. Et en fait, il faut savoir pourquoi on le fait et comment. Bah, parce que la Loire est un personnage à part entière, comment on écrit le fleuve, comment avec la langue on arrive à dire ce tourbillon, ce qui va, machin, et les sensations aussi que les personnages vont avoir. Donc ça, moi, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Le roman est assez court, mais j'adore ça, vraiment être très précis par rapport à ça.
La rédaction proprement dite, donc devant l'ordinateur, vous avez une discipline, des rituels, vous tournez trois fois sur vous-même, des choses comme ça ?
Non, je me mets devant l'ordinateur le matin et j'en repars le soir. Et si à un moment je bloque, je vais me promener un petit peu pour m'aérer la tête ou je peux rester trois heures avec mon carnet assis à me dire il faut que je trouve quelque chose.
Ah, vous avez des horaires de bureau ?
Oui. Mais c'est un métier, écrivain, donc j'ai des horaires de... Ouais, 8h30, 19h30 à peu près.
Ah oui.
Enfin, ça dépend des journées. Moi, je fais beaucoup d'interventions à l'extérieur aussi, mais ouais, quand je travaille. Et en fait, je trouve que c'est comme ça qu'un roman avance, parce qu'on l'a vraiment en tête et que tous les jours, on remet le métier à l'ouvrage et qu'en fait, on se dit... Là, sur la structure, il y a des moments où on se dit « Ah tiens, je vais tenter ça !» Et c'est parce qu'on est vraiment baigné dans ce processus d'écriture régulier qu'on arrive à avoir la maîtrise de ce qu'on est en train de faire.
D'accord, mais donc ça veut dire que vous prenez des pauses, café?
Oui, quand même. Non, mais ça
va. Des horaires précis aussi?
Non, ça dépend. Quand je considère que j'ai bien écrit, je vais m'accorder une pause. Je ne suis pas non plus un staccanoviste. Hein. Et après, parfois, j'écris en musique parce que les personnages ont une musique en eux et ça va m'aider ou m'accompagner à décrire la scène ou à décrire ce qui se passe. Sur l'énergie, on parlait de la partie de foot. Enfin voilà, il faut qu'il y ait de la musique qui me mette dans cette énergie-là. Moi, j'ai été comédien, donc j'ai une capacité à être en croyance immédiate assez vive. Donc souvent, même quand je suis dans un train, je peux faire peur aux gens, parce que je suis en train de vivre ce que vivent mes personnages. Même à me dire, mais est-ce que ce personnage qui vole des slips, comment fonctionne-t-il? Mais j'adore ça, c'est un jeu d'être à la place de ces personnages et d'essayer de ressentir, quand ils sont en train de pleurer, en train de s'émouvoir, d'être à leur place vraiment.
Et vous pouvez écrire dans le train aussi alors?
Ah oui.
Et vous écrivez chez vous sinon? Ou alors vous avez
un espace bureau et
pour
tout,
avoir l'air de partir au bureau quand même ou...
Non, c'est vraiment chez moi et puis après un peu partout, mais toujours avec aussi mon ordinateur.
Vous ça pourriez sortir de chez vous, faire un tour et revenir chez vous comme si vous alliez au bureau. Et ça donne On ne se baigne pas dans la Loire. Et d'ailleurs, ça, tenez-le vous pour dit. C'est chez De Noël. Guillaume Nel, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1, 14h, 15h. La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre, la suite. Il est l'heure de visiter une bibliothèque. François Rollin, le professeur Rollin, a publié récemment un dictionnaire amoureux. Chez Plon, vous connaissez la collection. Dictionnaire amoureux de la bêtise. Non seulement, dit-il, parce que la bêtise est la chose la mieux partagée en ce bas monde, mais aussi parce que son polymorphisme, ajouté à son omniprésence, en fait un des sujets les plus riches et les plus inépuisables qui soient. Du pur François Rollin. J'ai profité de l'occasion pour voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour François Rollin.
Bonjour.
Avant d'allumer les micros, on était en train de parler de Radio Libre.
Oui.
Parce que vous avez un autocollant là sur un étui de flux traversière, d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça.
C'est un autocollant de Radio L FM 92.
Voilà, c'est fait partie des très très nombreuses radios libres qui sont nées là dans le début de l'ère Mitterrand. Et moi, j'étais dans tout ce combat de Gilda, la radio Politaine, de Mercure 104. J'ai fait plein de petites radios comme ça. Puis on faisait des assemblées générales interminables. Et voilà. Et finalement, il en est ressorti la bande FM que vous savez.
Merci de nous accueillir chez vous. On est dans la grande banlieue parisienne, dans un petit village, dans une petite maison et dans une petite chambre dans laquelle il y a une petite bibliothèque.
Voilà.
Mais surprise, ça arrive quelquefois, vous êtes en plein déménagement et donc ce sont des cartons. Je vais encore devoir mettre la main à la pâte, ça arrive. Merci beaucoup. On observe dessus qu'il est inscrit « Livre Rollin » ou « Livre plus bazar ».
Oui, alors c'est ça, je ne peux pas assurer que dans tous ces cartons, il y ait toujours des livres, uniquement des livres. Quelquefois, par exemple, il doit y avoir les albums photos qui vont avec. Mais en gros...
Alors, vous ne m'avez pas facilité le travail, hein. C'est-à-dire que parfois, on m'ouvre avant les cartons, me sort les 4-5 romans préférés. Là, ils sont fermés dans la bibliothèque, mais pas encore rangés.
Oui, voilà, exactement. Ouais, de toute façon, je ne veux pas mentir, je ne les consulte pas tous les jours, tous ces livres. Alors oui, là, on a des trucs au-dessus, mais ça, vous pouvez déjà l'enlever parce que ça va nous permettre de sortir les cartons. on va déjà avoir des choses quand même importantes. Là.
Alors, on a Oscar Wilde, la balade de la geôle de Reading. Pourquoi ils sont sortis, ces livres-là?
Alors, parce qu'on a oublié de les rentrer. Parce que c'est des choses récentes. Ça, c'est sur mon ami Darry Cole. C'est le livre de son épouse. Les ouvertures d'échecs. Mais ça, ouais. On n'appelle pas ça des livres.
Mais pourquoi vous avez les ouvertures d'échecs?
Parce que je suis un joueur d'échecs et mon fils aussi.
D'accord. Donc, vous avez des bouquins où vous étudiez les...
Oui, ah oui. Ben ça, il y a des librairies spécialisées qui ne font presque que ça. Vous avez une littérature immense sur les échecs.
Vous avez un niveau.
J'ai eu un très bon niveau. J'ai eu un très bon niveau. Voilà. Mais maintenant, je n'ose plus jouer parce que je suis très ami avec Denis Grosdanovic, l'écrivain, qui vient de sortir un dernier bouquin sur les petites choses et qui lui est un grand joueur d'échecs.
Donc vous connaissez le coup du berger, les trucs comme ça.
Bien plus que ça.
C'est quoi le coup du berger d'ailleurs?
Le coup du berger, c'est une ouverture qui vous permet de faire mat en quatre coups. Voilà, on sort le fou, on sort la reine. Mais il faut supposer que les noirs ont fait une bêtise dès le début. Donc le coup du berger n'est possible que si vous jouez face à un débutant un peu stupide. Ce qui n'est pas mon cas. Alors ici, regardez voir. Bon, ça, très important, puisque c'est des BD, mais ça rentre aussi dans les bouquins.
Du fluide glacial, pour moi, c'est votre école, mais peut-être je me trompe.
Oui, mais Daniel Gossens, c'est mon ami. Et c'est un immense génie de la bande dessinée. Nous sommes un petit clan avec Benoît Poulvorde à défendre Daniel Gossens.
Donc c'est voilà, quoi l'esprit on peut le...
De Gossens, on est dans un monde absurde, voilà, totalement décalé. Ça ressemble à rien d'autre. Le dessin, d'après tous ses confrères, disent que c'est lui le roi du dessin, le plus précis. Et fait des BD un peu pour se distraire. En réalité, à la base, il est professeur d'intelligence artificielle.
Ah oui ?
Donc j'ai travaillé sur le dictionnaire de la bêtise avec lui pour réfléchir à l'intelligence artificielle et à la bêtise artificielle. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore au-dessus avant de pouvoir sortir un carton ? C'est pas toujours important. Ça, le bouquin de Kaamelott, il pourrait aller à la poubelle. Oui, parce qu'il faut que je vous dise une chose très importante. Et là, je sais que je vais choquer des gens. Je n'ai aucun attachement, aucune affection pour l'objet livre.
D'accord.
Ce qui est important, ce qui a changé ma vie, c'est le contenu du livre. Mais après, l'objet, je m'en fiche. Et je peux même les jeter quelquefois.
D'accord. Mais Kaamelott, vous êtes le roi Lot quand même.
Oui, mais je m'en fous complètement. C'est une BD, mais je ne sais même pas si Alexandre lui-même, il est très attaché à cette BD. Alors, je la reçois parce que je suis. Alors là, une étude de batterie, revoilà encore du Gossens.
Ah, carrément, l'écho alors, de Sergi Pontoise.
Oui, alors, ça, c'est pas des livres. Vous avez
de 74.
Pas... Tiens, regardez plutôt Laura Lutard, au bord du bord, une poétesse. J'ai acheté son petit bouquin parce qu'elle était ma voisine au Salon du Livre de Besançon.
Mmh.
Et
c'est sympa, ça.
J'adore les gens qui font de la poésie. Il faut en 2022, pour écrire de la poésie, il faut un courage inouï et une certitude d'en vendre... 25 au maximum, c'est voilà, j'adore ça.
Et la poésie, vous en lisez ?
Oui, j'en lis et j'adore ça. Je trouve très important que les gens continuent d'écrire de la poésie. Et très dommage que maintenant elle soit reléguée au rang de discipline pour vieux fous barbus dans des bars mal éclairés. La poésie, vous vous rendez compte, le patrimoine. Le trésor que c'est la poésie française, et aujourd'hui, tout le monde s'en fout.
Ça revient par les réseaux sociaux, bizarrement.
Ouais, un petit peu, voilà. Mais,
parce que le format s'y prête.
Téléphoner à tous les éditeurs en disant « Est-ce que je peux vous envoyer un livre de poésie ?» Il rit.
C'est déjà rare de trouver un rayon poésie dans une librairie. On entre dans le dur, là.
Allez, hop.
Il y a les cartons.
On descend un carton.
Comment vous les avez... Ils étaient où avant ?
Ils étaient dans une
Est-ce
bibliothèque.
Qu'ils étaient bien classés ?
Mais pas très bien classés. Alors, on va trouver sûrement beaucoup de bouquins signés François Rollin, puisque c'est ma petite collection. Bon, mais là on a déjà des choses. Bon, alors, un autre dictionnaire amoureux.
Ah bah oui, on peut en parler. C'est celui de Jean-Loup Chifflet, en plus.
Mon grand maître.
En général, on ne parle pas de l'actualité de celui chez qui je vais. Mais là, vous avez des dictionnaires amoureux. C'est ce que vous sortez en ce moment.
Oui.
Jean-Loup Chifflet, il faut en parler un peu. On a fait sa bibliothèque, d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. Oui, ben, Jean-Loup Chifflet, immense intellectuel, poète... homme délicieux, gentleman formidable. Et bon, voilà, il a écrit plein de jolis bouquins. Et puis, si vous écrivez un bouquin, c'est le meilleur conseiller de vers quel éditeur se tourner. Il connaît toute l'édition française.
Et son truc principal, c'est l'humour, son domaine de recherche.
Oui. Et l'absurde et la langue anglaise, puisque c'est Sky Meyers Band.
Sky Meyers Band, son grand succès. Son best-seller. Au milieu de tout ça, dans le carton, je tombe sur un petit poche de Camus, La Chute,
ouais.
Avec une petite inscription qui il a été acheté en janvier 72 ou offert en 72.
Ouais.
Est-ce qu'on vous l'a offert ? Est-ce que vous l'avez trouvé chez un bouquiniste ?
Non, j'ai dû l'acheter neuf.
Et alors, bien jauni.
Je vous ai dit qu'il m'arrivait de jeter des livres, mais je ne jette jamais Camus. J'ai une affection particulière pour Camus. Je vais régulièrement planter un stylo sur sa tombe à Lourmarin.
Ah bon ?
Vous savez, on est nombreux à faire ça, hein, même le gardien,
non,
du cimetière,
je savais pas.
Le gardien du cimetière est obligé régulièrement d'enlever les stylos plantés dans la terre, sinon on ne verrait même plus la tombe. C'est une toute petite tombe modeste à Lourmarin. En Provence. Et voilà, Camus, pour moi, c'est un peu magique. Sa littérature est fabuleuse. Et notamment, elle a forgé mes 20 ans. Donc c'est pour ça, voilà, 72, j'ai 20 ans. Et tout Camus me parle.
Il sent la maison de campagne, hein, ce livre de poche. Là.
Oui. Ben, ils ont été trimballés, de toute façon, sans aucun égard particulier. Alors, si on y va... Je passe sur des trucs que je connais même pas. Là, très important, Topor, évidemment. J'ai aussi beaucoup de livres de Roland Topor, qui fut mon ami et mon maître, autre génie.
Pourquoi ?
Pourquoi Topor ?
Ouais.
C'est vraiment, je vous dis, c'est mon ami et mon maître. D'ailleurs, j'ai publié, il n'y a pas longtemps, chez Hugo Dezinge, les mémoires d'un gros mytho, qui est un hommage aux mémoires d'un vieux con de Roland Topor. Alors, je vous vois bouger. Tiens, j'ai Olivier Adam. Ouais, je me suis lié d'affection avec cet auteur.
Dans un salon encore ?
Oui, dans un salon, oui. Ouais, j'ai fait une lecture avec lui. Tiens, là, je vois un bouquin de Jacques Iberoyer, mais c'est déjà vieux, mais mon ami aussi. C'est vrai que...
Aucune espèce de cohérence, hein, vos cartons.
Non, aucune. Non, non. Grégoire Lacroix. Tiens, voilà Denis Grozanovitch, dont je parlait tout à l'heure, très, très bon joueur
avec
d'échecs.
Avec ce titre magnifique, Le génie de la bêtise.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il nous
raconte ? C'est pas son meilleur bouquin, c'est un peu plus intellectuel. Les best-sellers, c'est le petit traité de désinvolture et voilà, des éloges de la paresse. Tiens, ce bouquin de Beccaro, il est très très bien. Beccaro, oui. C'est pas un grand écrivain, mais c'est un type très sympathique que je fréquente et que j'adore depuis des années. Et en lisant son bouquin, je comprends encore mieux pourquoi je l'adore, parce que c'est un mec qui a eu une enfance absolument tragique. Je crois qu'on est en train de faire un film de
ces
deux livres.
On a visité sa bibliothèque, Thierry Beccaro, ouais. Et on a trouvé un petit carnet dans lequel il note régulièrement des titres de bouquins qui n'existent pas.
D'accord.
Et donc, ça ressemble à de la poésie, c'est-à-dire c'est toute une liste de titres de bouquins qui n'existeront jamais.
Ouais. C'est un mec très intéressant, très important. Un guide du routard de la crête. Bon, évidemment, il est déjà obsolète. Revoilà Olivier Adam avec Dessous les roses. Proust, alors, bon, évidemment, aussi très, très important dans ma vie. Donc là, j'ai la grande biographie de Proust.
Très important dans votre vie, Proust ?
Oui,
vous l'avez rencontré
aussi.
Quand ?
Je l'ai rencontré un peu plus tard que Camus et Sartre. Mais je l'ai rencontré quand même vers l'âge de 25 ans. Et au moment où on a beaucoup de tourments amoureux, et évidemment, voilà, Proust est le...
Par la recherche, vous l'avez rencontré ?
Oui, par la recherche du temps perdu.
Vous avez lu d'une traite ?
Oui, j'ai dû tout lire, et ma stupéfaction n'a pas faibli de se demander comment cet homme, dont j'ai appris par la suite qu'il était plutôt homosexuel, comprend si bien les états d'âme amoureux des hétérosexuels. Il décrit tout ça si bien. Pour moi, c'est un immense génie et c'est une lecture follement agréable.
Je sais bien qu'on ne cherche pas d'utilité particulière dans la littérature, mais est-ce que Proust, vous avez senti qu'il vous avait aidé ensuite ?
Mais sans aucun doute. Sans aucun doute. Et quand on me demande quelquefois, mais vous parlez, vous exprimez bien, François Rollin, vous parlez plutôt, vous avez un niveau de langue qui n'est pas mauvais, ça vous vient d'où ? Ben, j'en sais rien du tout, mais je dis probablement de la littérature. Et donc probablement de Camus, de Proust, de Balzac, mon idole, puis de Buzzati, de quelques autres idoles comme ça. Et je pense que c'est en tout cas là que j'ai appris du vocabulaire.
Balzac, votre idole ?
Oui.
Il est où ?
Il est nulle part. Ah. Aussi, j'ai peut-être les illusions perdues qui est quelque part, mais il est tout dans ma tête. Voilà, ça c'est
et pareil, c'est même question, comment, quand est-ce que vous l'avez découvert? Qu'est-ce qui vous a interpellé, accroché?
Alors, Balzac, en fait, il a eu une influence aussi un peu négative dans ma vie, parce que c'est en lisant Balzac que j'ai acquis la conviction, que j'ai encore aujourd'hui, que je suis totalement incapable d'écrire un roman. Et voilà, je ne veux pas écrire de roman après Balzac, je serais trop minable. Mais voilà, pour moi, c'est le roi des romanciers, et c'est cette faculté extraordinaire d'écrire des choses qu'il n'a quelquefois pas vues, qui ne sortent que de son imagination. Et c'est, voilà, il y a des envolées. Alors, j'ai lu aussi, j'ai des bouquins quelque part sur les manuscrits de Zola et toutes les préparations de Zola. Zola préparait avec un soin inouï ses romans, toute la saga des Rougon-Macquart et tout ça. Il fait des petits dessins, des petits plans, il prévoit des trucs et tout ça. Je crois que Balzac était beaucoup plus fulgurant, mais 12 heures de travail par jour avec 18 litres de café. Et pour moi, voilà, c'est une figure formidable. Et enfin, surtout, voilà, tous ces romans sont pour moi l'archétype du roman. Ce que c'est qu'un roman, quoi, une histoire dans laquelle on s'embarque et on se passionne pour tous ces personnages et pour tous ces paysages. Voilà, La peau de chagrin, c'est un pur chef-d'œuvre. Et dans La peau de chagrin, il y a la description de cette boutique de l'antiquaire. Il y a 8 pages absolument passionnantes avec 62 mots par page qu'on ne connaît pas. Voilà, tout ça, c'est pour moi, c'est renversant, c'est délicieux.
Et vous relisez régulièrement ?
Pas régulièrement. En fait, je lis très peu. Alors, c'est deux choses qui vous, normalement, devraient vous étonner. Que je ne sois pas attaché à l'objet livre et que je lise très peu. Mais ce que je lis me profite d'une manière inouïe. Et souvent, j'ai été confronté à des gens, notamment des femmes, qui sont des grands lecteurs ou des grandes lectrices, quand ce sont des femmes. Et je me disais, ben oui, elle a lu 65 fois plus de bouquins que moi, mais on dirait qu'il lui en reste un petit peu rien. Alors que moi, les bouquins que j'ai lus, ils ont tous... Voilà, j'ai pas lu tout Kessel, mais j'ai lu Fortune Carrée. Et Fortune Carrée, ça a changé le sens de ma vie. Ça a changé ma façon de voir le monde. Et voilà. Donc
mais qu'est-ce qui vous retient, alors ?
De lire plus, oui. Le manque de temps, le fait que j'écrive moi-même, alors lire, bah, c'est encore être un peu au bureau. Et puis, je sais pas, un manque de patience aussi. Beaucoup de livres qu'on m'envoie, beaucoup de copains qui m'envoient des livres. Alors, je ne vais pas les nommer puisque je vais en dire, je vais pas en dire le plus grand bien. Beaucoup de livres qui me tombent des mains, voilà. Mais je suis pas normal, hein, parce que Modiano me tombe des mains. C'est pas normal.
Oh, bah pourquoi ?
Bah, je sens bien que voilà, il est quand même prix Nobel, hein, donc je sens bien que je dois. Bah, ça me le fait pas. Et Bret Easton Ellis non plus, ça me le fait pas.
Aucun lien.
Il y a des trucs qui me le font pas, et j'ai pas la patience, et j'ai pas justement la patience des grands lecteurs qui se font des... Voilà.
Mais justement, Modiano, par exemple, quand vous avez essayé, il vous tombe des mains. Mais est-ce que vous allez quand même au bout? C'est une sorte de principe. Ou alors, vous n'avez aucun scrupule à laisser tomber à la page 30
si alors, si le bouquin n'est pas trop gros, je vais au bout. Mais s'il est gros, j'ai aucun scrupule. De la même façon, en fait, ça me venge d'une chose que je ne peux pas faire et que j'aurais envie de faire souvent, c'est de quitter un spectacle en cours parce que je m'emmerde et je sais que ça ne va pas s'arranger. Mais je ne peux pas le faire parce que la plupart du temps, c'est des copains et c'est trop visible. Alors qu'un bouquin, bon, bah, je peux le faire sans...
Mais alors après, vous êtes obligé de mentir quand on vous demande ce que vous en avez pensé.
Du spectacle ?
Oui.
Bah, c'est l'art de complimentir. Hein, développé
complimentir
par... Voilà, c'est le mot est de Guitry, oui.
Comment ça marche ?
On dit, en sortant en se levant à la fin du spectacle, on dit à sa compagne ou à son Sigisbée, allons donc complimentir. Et on va dans la loge et on dit merci, formidable, et tout ça. Des mensonges. L'artiste, en général, sait que ce sont des mensonges. Mais ce n'est pas gênant parce que si l'artiste veut finalement savoir vraiment ce que vous en pensez, dans mon cas, ça arrive souvent parce que, bon, je suis pour un certain nombre de gens un peu une référence, ou en tout cas, ils ont envie de connaître mon point de vue, ben, ils m'appellent après. Et donc, dans la loge, c'est la règle. On dit bravo, formidable, j'ai adoré. Et après, quand l'autre vous appelle, vous demande vraiment votre avis, vous dites « je me suis profondément ennuyé, je pense que c'était un spectacle raté voilà. ». On le dit que si la personne le demande. S'il ne le demande pas, on ne lui dit jamais. Alors ici, vous voyez, je suis toujours sur le carton, on sort les rollinettes, très important, les rollinettes. Bon, ça, c'est un livre à moi. Ce sont des aphorismes chez un éditeur qui désormais a fait faillite.
Vous voulez regrouper tous vos livres à vous quand vous rangez la bibliothèque?
Oui, je vais le faire. Ce n'est pas fait, puisque ça a été mis en carton n'importe comment, mais je regrouperai, effectivement, là, il doit y avoir un tiers de ce poids de livres qui sont des livres à moi pour pouvoir vous les donner quand vous êtes gentil.
Parce que là, ils sont mélangés avec Jean Kelevitch et Derrida.
Oui, Jean Kelevitch, très important. Derrida, j'ai moins... Je suis un peu...
Jean Kelevitch, c'est sur l'ironie, c'est son livre sur l'ironie. Oui. Est-ce que vous avez... C'est idiot comme question, hein. Est-ce que vous avez travaillé la théorie de l'humour ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et je ferai, si Dieu me prête vie, je ferai, probablement avec mon vieux complice Joël Dragutin, un livre sur l'humour et sur le rire, notamment, où j'expliquerai, parce qu'ils sont connus mais personne ne veut les dire, les quelques mécanismes du rire et qui permettent de construire des textes drôles. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'un vrai peuple pense, il n'y a pas besoin d'avoir un public pour savoir si c'est drôle. C'est celui qui écrit, c'est le boulot de l'humoriste de savoir, avant de le produire en public, si c'est drôle ou pas.
Et là, je tombe sur Franny et Zoé de Salinger, voilà. Qui est son autre livre avec l'Attrape-cœur.
Oui.
Et Salinger, il a une vie particulière parce qu'après le succès de l'Attrape-cœur, il s'est un peu reclus, enfin même complètement reclus à Corniche dans le New Hampshire aux États-Unis, dans un petit village, dans sa maison, et personne ne l'a jamais plus revu, à part les habitants du village qui le protègent des journalistes, qui disent c'est à droite quand les journalistes cherchent une maison alors que c'est à gauche. Bref, est-ce que vous avez ce livre pour Franny et Zoé, le livre, ou parce que vous aimez aussi cette attitude de Salinger?
J'aime cette attitude. J'aime cette attitude, et puis je l'ai eue au fond bien malgré moi, puisque moi je suis très 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 peu reçu sur les médias, j'ai fait très 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 peu de radio, de télévision, j'ai eu très peu d'écho dans la presse écrite, ce qui fait que au moment, sur mon lit de mort, je vais gagner du temps, j'aurai très peu de gens à remercier.
Bah, vous me remercierez moi déjà, parce
bien
que
sûr, Nicolas
est là.
Carreau, c'est noté déjà. C'est noté.
Mais vous avez fait de la télé, vous aussi.
Non, mais très peu. Et quand je sors un bouquin ou quand je sortais un spectacle, c'est vraiment, je vois passer tous les trous de balle qui ont écrit une demi-chanson ou qui ont fait un demi-sketch à la noix. Et Roland, on dit, non, c'est génial, mais c'est trop génial pour nous. Alors maintenant, ça commence à faire bien chier. Tiens, voilà un joli bouquin que j'ai écrit avec mes complices Arnaud de Samer et Arnaud Joyet. Joliment publié à la Martinière.
On a perdu notre ingé son qui est mort de rire, là.
On en a vendu trois.
Olivier.
Tiens, Comte Sponville, bonjour André. Hop, revoilà Colère. Catherine Laborde, bon, c'est ma copine. Bon, ça, voilà. Tiens, là, on a beaucoup de bouquins à Rolin.
Qui est les encore sous
mots,
mystère.
Les belles lettres. Oui, parce que.
Les grands mots du professeur Rolin.
J'en ai plein, et puis. Ils attendent d'être offerts, parce que les grands mots, la première édition est chez Plon, comme ça, un joli truc. Et puis après, c'est joli aussi, mais c'est l'édition plus courante, comment elle s'appelle, je ne sais plus quoi.
Pour tout l'or des mots, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, c'est un bouquin sur les expressions.
Claude Gagnère.
Voilà. Et il explique l'origine de toutes les expressions. Claude Gagnère, c'était un mec de la trempe d'Alain Rey. Voilà, c'est des gens qui connaissent la langue française formidablement.
C'est quoi votre expression préférée? Ou celle que vous utilisez le plus?
Alors,
ou la plus incongrue?
En fait, dans le Gagnère, c'est plus des réflexions sur les holorimes, sur les étymologies, sur les épitaphes, sur les dictionnaires.
Sur les holorimes
Il ne faut pas que je le confonde. Quand j'ai dit sur les expressions, je pensais, c'est le bouquin de Claude Duneton, la puce à l'oreille ou un truc comme ça qui dit l'origine de l'expression. Le Gagnère, il est plus sur la langue française. Voilà, c'est très important, Claude Gagnère. Et puis ici, le Robert, je viens d'évoquer à l'arrêt. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant de garder des dictionnaires
Dictionnaire historique de la langue française.
Ouais, c'est chouette, mais c'est vraiment très spécialisé, hein, c'est très pointu.
Hein. Même question, est-ce que vous avez quelques mots préférés comme ça? Par leur sonorité ou simplement par leur signifiant
je m'amourache des mots que j'ai appris sur le tard. Voilà, c'est la dernière rencontre qui va être la meilleure. Donc, c'était il y a 2 ans, c'était la sérendipité qui m'a accroché.
Quel fait de vadrouiller, de flâner dans des informations jusqu'à ce qu'on tombe sur...
C'est pas tout à fait ça, c'est le fait de trouver, de faire une découverte importante au moment où on cherchait tout à fait autre chose.
Voilà, ouais. Voilà. Et en cherchant autre chose, on est amené à tel autre, et tel autre, et tel autre, et on trouve quelque chose qu'on ne cherchait pas.
Et donc, Fleming trouve la pénicilline en cherchant tout à fait autre chose. Le micro-ondes et la tarte tatin sont des exemples de sérendipité. Voilà, un joli mot.
Vous avez le mot parce qu'il sonne, il est marrant, quoi.
Il est marrant, il rebondit. Il est dur à dire. Et puis, pour les dyslexiques, il est problématique. Et puis, c'est quand même l'histoire d'une vie, ça, aussi. Vous avez trouvé quelque chose de très important alors que vous cherchez ailleurs. Dans une bibliothèque, ça peut vous arriver aussi. Vous cherchez, pour ne pas la citer, à la FNAC, dans un rayon, et puis vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Et puis, en cherchant Boris Vian, tout d'un coup, vous découvrez qui c'est qui va être tout juste à côté de Boris Vian.
C'est Prévert, mais physiquement.
Oui, oui.
Pas dans la bibliothèque.
Oui. Alors, Prévert, je ne l'aime pas.
Moi non plus.
Bon, on n'a pas trop le droit de le dire.
Si, Houellebecq a écrit un article, c'est Prévert est un con.
Oui, oui.
Pourquoi vous n'aimez pas Prévert? Tout le monde aime Prévert.
Eh bien, je sais bien. Ben, justement, moi, je sais gré à Houellebecq d'avoir déclaré publiquement qu'on a le droit. Je trouve ça mal écrit, je trouve ça banal, je trouve ça scolaire. Voilà, très honnêtement. Voilà, autant la poésie d'Hugo, de Lamartine ou de Vigny peut m'enflammer. Autant la pseudo-poésie, même celle de René Char, pour moi, oui, elle est forte, il y a une identité, et Éluard, évidemment, une identité. Prévert, c'est scolaire, c'est un truc pour les gosses et tout ça, c'est des petites blagues, ça pète pas loin. Voilà,
Mais Boris Vian, oui.
Ah, Boris Vian, c'est très très fort, Boris Vian, c'est
immense.
Mais
alors, comment vous expliquez qu'ils étaient amis?
Parce que Boris Vian n'a pas vécu très longtemps, donc il n'a pas eu le temps de s'apercevoir que Prévert était... Non, mais il ne faut pas dire du mal des morts comme ça, mais... Bon, voilà, mais de toute façon, je ne dis pas du mal du bonhomme, hein, mais son œuvre, tout ça... Comme dans les romans contemporains, je n'ai que des amis parmi les romanciers, donc je n'attaque pas l'homme ou la femme, j'attaque mais souvent le contenu, c'est un peu bébête, et puis à ce moment-là, il m'arrive de le lire et puis de me dire, ah oui, c'est sûrement très bien, mais ce n'est pas pour moi. Voilà. Bah, Prévert, ce n'est pas pour moi. Prévert... je le donnerai à mon... Vous avez vu, j'ai un bébé. Je donnerai à mon bébé Prévert. Voilà. Jusqu'à l'âge de 6 ans, pourquoi pas. Mais après, il faudra lire de la vraie poésie.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on n'ait pas vraiment le droit de le dire trop fort. C'est-à-dire qu'il y a un attachement quand même à la poésie, quelle qu'elle soit. C'est chouette, en fait, que quelqu'un s'énerve parce qu'on a dit que Prévert, c'était pas
bien. Oui. Et puis, c'est mieux de se disputer là-dessus que de se disputer sur le sexe des anges.
Merci beaucoup, François Rollin.
Mais merci à vous, Nicolas. Dété.
Et puis pour ce déménagement improvisé.
Ouais.
Cet emménagement.
Voilà,
je vous laisse ranger.
Voilà, revenez dans 2 ans. Je vous assure, tout sera bien rangé, bien en ordre. Et puis on verra s'il y a ou non un bouquin de Prévert au milieu de tout ça.
Merci, professeur Rollin.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Vous êtes toujours sur Europe 1, c'est un bon choix et il est l'heure de lui et approuver. Les chroniqueurs de La Voix est libre sont là pour vous donner des idées de lecture. Alors s'il vous plaît, prenez un crayon et puis un papier pour noter tout ça. Parce qu'après je vais recevoir des mails pour dire « mais c'était quoi déjà le titre de ?» Mais ça ne me dérange absolument pas, je réponds avec grand plaisir. Et on commence avec Amandine Cole qui est là. Je ne vous ai pas présenté, il y a Héloïse Goua,
bien sûr,
la chronique jeunesse. Il y a Sébastien Bordonnaf pour la bande dessinée et donc la magnifique Amandine Cole, l'immense Amandine Cole de la librairie de Paris, à Paris, place de Clichy, qui est venue nous présenter un roman fantastique, m'avez-vous dit.
Exactement. Donc c'est publié à La Talente, une très bonne maison d'édition pour ce genre de choses. Ça s'appelle L'impératrice du sel et de la fortune, d'une américaine qui s'appelle Nghi Vo. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce petit ovni qui ressemble un peu à un livre adolescent, qui est très court? C'est un conte. C'est un conte qui puise ses racines dans la culture chinoise et donc tout est raconté de façon un petit peu subtile comme ça. C'est une vieille dame, on est dans un vieux palais abandonné, dans un pays qui semble accueillir une nouvelle impératrice. Il se passe beaucoup de choses, on ne comprend pas tout. Et cette vieille dame, dans ce palais, à chaque fois qu'elle ouvre une porte, qu'elle ouvre une boîte, quelque chose, elle raconte à un jeune homme qui vient l'écouter un souvenir. Et là, on se rend compte qu'il y a eu une femme, la compagne de l'empereur, qui a été mis de côté, qu'on a envoyé, puisqu'elle avait donné un héritier, etc. On s'en fichait. Et cette femme, elle était issue d'un peuple qui a été opprimé. Et de façon un petit peu subtile, elle nous raconte que, au vu et au sus de tout, elle ne va rien faire et elle va tout faire et elle va tout renverser. Et donc, c'est un peu un conte à l'ancienne avec des touches comme ça de féminisme, de fantastique. On se laisse complètement embarquer par cette histoire qui est complètement géniale avec une écriture hyper fine. Et à la fin, on se rend compte qu'on n'a rien compris et qu'on a absolument tout compris. Voilà, parce qu'on s'est complètement fait avoir à l'instar de cet empereur. Voilà.
Oh. J'y pensais depuis le début de la chronique en disant quand est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai dit pas.
Si, on l'apprécie.
Pardon, Amandine.
Voilà, mais c'est une petite merveille de lecture. Ça se lit en une fois, comme ça, un dimanche matin. Et c'est absolument formidable et ça change surtout. Voilà.
Ça se lit que le dimanche matin.
Quand on a du temps.
L'impératrice du sel et de la fortune, alors de Ngi Vo, donc N-G-H-I pour le prénom, Vo V-O, ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, à l'Atalante, l'impératrice du sel et de la fortune. Merci beaucoup Amandine Cole. Héloïse Goua.
Oui, vous connaissez le mot infobésité?
C'est quand il y a trop d'infos?
Oui, c'est un peu ça, c'est ce sentiment d'être submergé par des infos contradictoires et vous avez les réalités divergentes qui foisonnent sur Internet. On peut aussi parler de fatigue informationnelle, ça concerne tout de même un Français sur deux, hein, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Et ça concerne surtout les moins de 30 ans. C'est ce sujet qu'aborde le livre dont je vous parle aujourd'hui, qui s'adresse aux jeunes dès 15 ans. Cet essai s'intitule « S'informer, à quoi bon ?» C'est signé Bruno Patineau, qui est un spécialiste des médias et par ailleurs le président d'Arte France. Alors il s'adresse cette fois aux adolescents qui sont en première ligne de cette infobésité. Comme nous, les ados sont assaillis d'informations sur les réseaux sociaux, ils sont assaillis par les notifications. Vous savez combien de notifications on reçoit en moyenne par jour ?
Tout confondu ?
Oui.
Moi j'ai éteint les notifications.
C'est ça, une cinquantaine de notifications.
C'est horrible.
Oui, il ne faut pas.
C'est beaucoup. Hein. Mais à la différence des adultes, les ados ont peut-être parfois plus de mal à faire le tri dans tout ça. Alors Bruno Patineau ne pousse pas les jeunes à se couper des téléphones et de l'information. Bien au contraire, il insiste sur notre devoir collectif de s'informer, mais surtout de bien s'informer. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter par l'émotion et les croyances. Vous savez, les vidéos d'animaux en ligne qu'on adore partager à tout notre réseau, celle d'un chien qui sauve un chat de la noyade, c'est hyper mignon. On a tellement envie d'y croire qu'on oublie souvent de vérifier la source. Or, désolé de vous décevoir, il s'agit souvent de montage. Je vois que vous êtes très très déçus. Hein.
Bah, pour le chat, quoi.
Ouais. Non, mais c'est
une fake news en fait, cette info.
Oui. Enfin, d'accord. pas à chaque fois, mais il faut vérifier.
C'est un exemple.
C'est ça. Bruno Patineau nous rappelle qu'informer permet aussi de contrôler la façon dont les pouvoirs se comportent. C'est tout de même très important. Et selon l'auteur, l'information a une autre utilité très importante. Elle organise ce que le philosophe allemand Habermas appelle l'espace public, c'est-à-dire un ensemble de personnes rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun. C'est nous, les journalistes. Et du coup, l'auteur rappelle ce que doit être une information, je cite, « Elle doit mettre en jeu un processus de vérification par un individu ou une organisation désintéressée et responsable. » On dirait qu'il parle de vous, Nicolas, c'est fou.
Ouais, c'est incroyable.
Je pourrais vous en parler longtemps de ce livre qui retrace avec plein d'exemples l'histoire de l'information pour nous montrer à quel point elle est une arme décisive dans notre société. Il y a seulement 32 pages dans cet essai passionnant et accessible à tous. Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous n'avez pas choisi complètement par hasard.
Mais je vous parle de littérature jeunesse. La plupart des livres ont moins de 30 pages de toute façon.
Comme au collège, quand il fallait choisir une poésie, je prends celle-là.
Oh, vous êtes dur avec moi. Mais 32 pages égale, c'est vrai, au max, une heure de lecture. Ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle « S'informer, à quoi bon ?» C'est de Bruno Patineau et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse qui vient de lancer sa collection de courts essais engagés pour les 15-25 ans.
C'est parfait, merci beaucoup. Hello, à vous Sébastien Bordenave, avec deux bandes dessinées avec beaucoup de pages. Ouais. Félicitations, mon petit Sébastien.
Deux BD, deux salles, deux ambiances. J'ai quand même choisi une thématique qui pourrait être résumée en un mot, Porte Nawak. La première BD, elle est super originale. L'histoire tient en une phrase. Et si votre petite copine, du jour au lendemain, devenait pas plus grande que votre pouce ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un garçon nommé Minami. D'ailleurs, la BD s'appelle La petite amie de Minami. Et c'est vrai qu'elle est vraiment petite, la petite amie de Minami. Du coup, il se met à faire de la couture pour lui faire des tout petits habits. Il faut faire attention au chat aussi, parce qu'un coup de patte et hop, il n'y a plus de petite amie.
Les dessins, c'est hyper drôle.
Oui, la police va enquêter pour savoir pourquoi on n'a plus de nouvelles de la jeune fille, parce que maintenant, elle préfère habiter secrètement dans une boîte à chaussures aménagée dans l'appartement de son amoureux. Mais le plus gros souci, bah, ça va être leur couple. Bah oui, parce qu'ils sont jeunes, et puis ça les travaille. Quelle solution trouver à ce problème qui semble irrésoluble ?
Ce manga, irrésoluble.
Il est résolu. J'ai regardé.
Ça va ?
Oh, oui, j'ai jamais entendu ce mot.
J'ai regardé, j'ai eu un doute aussi.
Vous voyez qu'il n'est pas si bon élève.
J'ai vérifié.
D'accord, mais le mot vous va pas, Nicolas.
Bah, il est super, mais je pensais qu'il n'existait pas, mais je le prends. Merci beaucoup, Sébastien.
Je vous en prie.
Bravo, mon petit Sébastien.
Ce manga peut paraître comme ça, au mieux très décalé, au pire sans intérêt. Eh ben non, la magie opère parce que le déroulé du scénario tient le coup et que les dessins sont épurés, pleins de poésie. On doit cette BD à Shingeki Uchida. Elle avait 27 ans quand elle a eu l'idée de cette histoire. Bah maintenant, elle en a plus de 60 parce que la BD a mis un peu de temps pour arriver jusqu'à nous. Madame Uchida, elle est aussi chanteuse, actrice. La BD a d'ailleurs été un film il y a 20 ans au Japon. La petite amie de Minami, édité chez IMHO, une maison d'édition indépendante spécialisée dans les mangas décalé, je ne pouvais pas passer à côté. La deuxième BD, bah vous êtes déjà dessus, publiée chez Albin Michel. Là aussi, l'imagination est en roue libre, mais le scénario beaucoup plus élaboré. Ça s'appelle Centralia. C'est le premier roman graphique d'un néerlandais de 25 ans du nom de Miel van de Piet. Ça se passe dans une ville fantôme fictive. Plus personne n'y vit parce que des galeries souterraines ont pris feu. Depuis, il y a encore quelques habitants qui insistent, mais ils sont super déformés par des fumées toxiques. Ah oui, la ville est envahie par les nazis, des méchants qui portent un masque rouge qui les fait ressembler, vous savez, un peu à des nazis. Vous savez, c'est cette race de singe qui a un gros pif. C'est dessiné avec beaucoup de minutie dans les décors. Le scénario est prenant. Mais où l'auteur est allé chercher tout ça? Dans la réalité, tout simplement. Parce qu'en fait, Centralia, c'est une vraie ville américaine de Pennsylvanie. En 2009, il n'y avait plus que 9 habitants. Car en 1962, un incendie a pris dans les mines de charbon souterraines. Ça a rendu l'endroit quasiment inhabitable. La BD alterne la science-fiction et une certaine poésie. C'est vraiment chouette. C'est dépaysant. Plein de surprises. Mm-hmm. C'est Centralia chez Albin Michel.
De Miel van de Piet.
Oui, Miel.
Et puis l'autre, vous vous rappelez le titre ?
L'autre, c'était La petite amie de Minami de Shungiku Uchida chez IMHO.
Héloïse Gua.
S'informer à quoi bon de Bruno Patino aux éditions La Martinière Jeunesse.
Et Amandine.
L'impératrice du sel et de la fortune de Ngui Vo aux éditions de La Talente.
Parfait, et on vous retrouve à la librairie de Paris, c'est Place de Clichy, à Paris évidemment. Merci beaucoup Amandine Cole. Une petite citation peut-être Sébastien ?
Allez, une citation de Lucien, le personnage de rocker dessiné par Franck Margerin, qui a vraiment percé mon adolescence. Pour
avec
le coup.
Sa banane.
Exactement. Il est chez le vétérinaire et ce dernier lui dit à propos de son chien, voilà, et si après le traitement il va pas mieux, je vous donnerai les coordonnées d'un excellent taxidermiste.
C'est une solution. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre du roman de notre invité tout à l'heure, Guillaume Nel. Ça s'appelle « On ne se baigne pas dans la Loire, fabuleux ». C'est chez De Noël. Merci à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Merci à Boris Paczynski, bien sûr, l'homme aux doigts de fée.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.